pas comme les autres. Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Alain Pronkin est avec nous pour parler de religion. Monsieur Pronkin, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, alors, c'est tu veux parler quoi? D'abord de complotistes.
Oui, des complotistes, parce qu'on a eu dimanche dernier, puis on a vu ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui, il y a le pasteur Carlos Norbal, qui a son église sur la au 19e avenue à Montréal, et qui il y avait 200 personnes dans son temple en fin de semaine, et là, il disait, écoutez, on n'est pas en train de prêcher la rébellion, mais la liberté face aux autorités, puis il disait, il faut pas porter de masque, la distanciation, c'est pas important, et tout ce qui découle de ce type de discours-là, et il y avait des gens qui étaient ce qu'on appelle du mouvement complotiste qui étaient présents. Et les gens se disaient, écoutez, pourquoi la police qui était proche n'est pas intervenue, n'est pas allée dans ce temple pour dire, écoutez, vous devez sortir, puis voici vos amendes en passant, qui sont de 1 500 $ chacun. Et c'est la grande question, parce que pour rentrer dans un lieu, mettons, chez toi, Benoît, tu reçois des personnes, disons seulement 11, il faut un mandat de perquisition. La police ne peut pas entrer comme ça. Et en plus, quand on parle d'un lieu de culte, quand on parle d'un temple, on a toujours considéré ces lieux-là comme étant des sanctuaires où les policiers ne peuvent pas faire d'arrestation. Donc, si les policiers ont demandé un mandat de perquisition et qu'ils ne l'ont pas obtenu, ils sont repartis tout simplement au poste de police Bredeau. Ils auraient pu attendre à l'extérieur pour arrêter les gens et dire, voici vos amendes, mais ça n'a pas été fait. Mais ce pasteur-là, Benoît, souviens-toi, le 6 octobre dernier, on en avait parlé à ton émission.
C'était quoi?
C'est lui, il voulait organiser une manifestation au parc Jarry contre les masques. Et il avait invité plein de gens. Et finalement, là, il n'était pas dans un temple, il était dans un parc public. Mm-hmm. Et là, les forces policières sont intervenues, où ils lui ont parlé, et ils l'ont dissuadé. Et là, il avait annulé son événement qui devait avoir lieu au début d'octobre dernier au parc Jarry. Donc, il continue sur sa même croisade, sauf que là, il est dans son abri, son sanctuaire de son temple.
Qu'est-ce qu'il veut? Il veut propager le bon virus, ce monsieur, comment il s'appelle, Norbal? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie, Carlos Norbal, à part qu'on parle de lui, là?
Mais c'est surtout la liberté face aux autorités. C'est ça, c'est le discours.
La liberté de s'infecter. Ouais.
On nie ce qui se passe, mais le virus, Benoît, il est réel. Il y a des gens qui tombent malades et qui finissent à l'hôpital. Et il y a des gens qui décèdent. Et c'est réel, Benoît.
Peut-être que ce monsieur Norbal devrait lire les journaux et s'informer un peu, là, au lieu de répéter des
anglais. Mais s'il croit pas à ce qu'il lit, ça aide pas.
Mais s'il comprend pas ce qu'il lit, c'est sûr qu'il croira pas, là. Tu sais, il faut être capable de comprendre aussi.
Mais c'est arrivé en fin de semaine, puis les gens disent, écoute, il faudrait qu'il se passe quelque chose, mais il y a la fameuse dimension de la fameuse, on est dans notre temple, dans notre sanctuaire reconnu depuis l'époque médiévale, où on peut pas faire des arrestations.
Ben oui, et des sacrifices de vierges, tant qu'à y être.
Et voilà.
Ouais, c'est brillant. À Montréal, une première pour l'oratoire Saint-Joseph.
Oui, il y a un nouveau recteur de l'oratoire qui succède au Père Gros. Tout le monde se souvient du Père Gros en mars 2019 quand il avait été agressé par quelqu'un avec une arme blanche. Et il s'en était bien sorti. Et là, il prend sa retraite et il va être remplacé pour la première fois à l'oratoire Saint-Joseph. Ça va être un Américain, le Père Michael Delaney.
Pourquoi?
C'est parce qu'il fallait trouver quelqu'un. On a fait des rencontres, on a fait des comités qui ont rencontré les candidats possibles, et c'est lui qui a été choisi. Et il est à Montréal depuis le mois de mars dernier. Il est arrivé à Montréal vers le 8 ou le 9 mars de cette année, et il y a eu la fermeture des frontières, il y a tout de suite, puis il a dit, je vais rester ici.
Attends une seconde, là. Là, t'es en train de me dire que dans tout le Québec, là, on pouvait pas trouver un autre recteur de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à part un Américain qui parle pas français.
Oui, mais c'est un Sainte-Croix.
Alors, je m'en sers.
Il faut qu'il y ait de l'ordre de la congrégation de Sainte-Croix. Prêtre, Sainte-Croix, puis il n'y en a pas assez, sans doute. Mais Michel Delaney est un Sainte-Croix et il a appris le français.
C'est Michael Delaney.
Mais moi, je suis déjà en train de le franciser parce que sa première déclaration, il a dit « La clé de la culture, c'est la langue. » Il parle déjà allemand, espagnol.
Ça coûte quoi, vous aussi, avec ça, hein?
Pardon?
Sako Koivu aussi avait dit
oui,
ça.
Oui, aussi. Mmh. Et il l'avait pas appris. Lui, il a appris l'espagnol parce qu'il a œuvré au Chili, il a œuvré au Brésil, il a œuvré en Autriche. Il a appris l'espagnol, le portugais, l'allemand et il suit déjà ses cours de français. Et il a commencé à faire des conversations en français. Et lui, il dit, moi, c'est pas juste de converser en français ou de faire des messes en français, je veux l'écrire aussi. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a décidé d'apprendre le français et de respecter la culture, mais pour être recteur, il faut être un prêtre ou un prêtre de Sainte-Croix. C'est ça qui est important.
S'il n'y en avait pas au Québec des francophones.
Il n'y en reste plus beaucoup.
C'est l'oratoire Saint-Joseph quand même, là.
Oui, mais il n'en reste plus beaucoup. Ça, il faut se dire ça.
Okay.
Parce que les congrégations religieuses, ça va en diminuant. Un peu plus tard, je vais parler des statistiques au Vatican sur les prêtres.
Oui, mais les Sainte-Croix, c'est pas eux autres qui sont faites pogner avec des scandales?
Oui, c'est eux autres qui sont faites prendre avec des scandales.
Ah,
dans
ça.
Différentes écoles qu'il y avait au Québec.
Ah oui, OK. Fait que c'est pour ça qu'il y en a moins. Là. Ils sont ramassés en prison.
Il y en a quelques-uns. Pas beaucoup. Certains vont dire pas assez, mais il y a cet élément-là.
Bon, c'est vrai que c'est difficile à recruter hein, quand ils sont fait pogner avec des petits gars.
Ouais.
Brooklyn, le gouverneur Cuomo.
Oui, là, ben lui aussi, il est choqué. Il dit c'est un non-respect pour toute la population de l'État de New York. Parce que, je sais pas si tu te souviens, encore une fois, Benoît, à la fin du mois d'octobre, j'avais parlé d'un mariage où il était censé avoir 10 000 personnes de Yoel Teitelbaum, qui était le petit-fils dans la congrégation Sainte-Marthe d'un des fondateurs. Et on avait été capable d'annuler ce mariage-là. Eh bien, il s'est tenu ce mariage-là dimanche le 8 novembre. Et c'est dimanche que M. Cuomo était complètement bouleversé à terre. Et au lieu d'avoir 10 000 personnes, il y en avait 7 000 dans la synagogue hassidique. Ça s'est passé à Williamsburg. Et écoute, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation. Il y a tout pour le fameux cocktail, pour que le virus se déchaîne là, dans l'État de New York. Et là, il veut savoir qu'est-ce qui arrive. Il dit, je veux faire une enquête, mais on a toujours le même problème. Ça se passe dans une synagogue. Est-ce que c'est un sanctuaire où les policiers pourraient intervenir? Mais à 7000 personnes dans une synagogue, faut y penser. Là. Comment ça se fait que ça s'est pas su? Tout simplement parce que dans la communauté, on a décidé que toute l'information pour ce mariage-là était uniquement de bouche à oreille. Rien d'écrit. Aucune communication.
Non, mais c'est parce que parce que la communauté assidique de Boisbriand là est allée aussi dans un party puis est venue brailler pour qu'on les soigne puis qu'on les traite. Puis là, on essaie de leur faire comprendre, mais ils comprennent rien du cul ni de la tête. La communauté assidique comprennent rien là, parce que on les a pognés à Outremont, on les pogne à Boisbriand, on les pogne dans l'État de New York. Puis ils veulent rien savoir. Là. Ils entretiennent des parties puis des fêtes. Puis si la police intervient, ben la police est antisémite.
C'est ça. Mais il s'agit de voir ça va être quoi les conséquences. Parce qu'il faut pas oublier le fameux délai de 14 jours. Fait que si la fête est arrivée le 8 novembre, j'ai l'impression qu'on va vérifier les augmentations de cas dans la région. Ça devrait arriver là, présentement.
C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. C'est pas, la religion n'a aucune préséance sur la santé publique. Là. Il me semble qu'on devrait appliquer les mêmes règles à tout le monde.
Oui. Mais le problème, c'est que la communauté juive, la communauté musulmane, les catholiques, règle générale, c'est respecté partout. Mais c'est juste les fameux groupuscules. Là, on avait l'exemple ici à Montréal, il y en a une à Brooklyn, il y en a un peu partout. C'est ces groupuscules-là qui disent non, nous, on fait fi de tout, puis nous, on fait nos cérémonies religieuses, puis vous pouvez pas rentrer parce que ça vous prend un mandat, puis on est des sanctuaires.
Super. Ben vous démerderez quand vous aurez la COVID-19, puis vous vous soignerez entre vous. À un moment donné, ça va bien faire. Parce que là, ils vont mettre en danger la santé du personnel de santé, justement, parce qu'ils veulent rien savoir des normes de notre société. Mais quand ils ont besoin d'aide, là, par exemple, faut leur en donner parce qu'on est raciste, antisémite, puis là, ils vont nous sortir des violons.
Ouais, mais il faut jamais oublier qu'il y a des femmes et qu'il y a des enfants qui sont pris là-dedans puis qui risquent de le traiter.
Les femmes sont adultes, là. Les femmes, là, c'est pas des enfants. Les enfants, je comprends. Les femmes, c'est des adultes.
Enfants.
Les femmes devraient protéger les enfants aussi. Les hommes devraient protéger les enfants. Mais là, c'est la religion qui prime, qui a préséance sur tout. Ben, vous allez vous démerder. Mais évidemment, on va les aider, là. On les laissera pas dans la rue. Mais c'est toujours pareil. En Italie?
Oui, en Italie, une première mondiale, Benoît, je n'ai jamais vu ça. On avait déjà parlé du cardinal Becciu, qui avait donné des pots de vin. Bon, en tout cas, faut faire attention quand on dit le mot de pot de vin, parce que là, il est en train de poursuivre un journal, l'Expresso, qui avait donné à des membres de sa famille et qui était pris dans une affaire de projet immobilier à Londres où il avait pris les argents du Vatican. Et on se souvient, ça avait sorti dans les journaux et le pape l'avait rencontré et le cardinal Becciu avait démissionné tout de suite après sa rencontre avec le pape. Et mais il avait gardé juste le titre de cardinal, mais il peut pas se présenter pour aller voter pour le prochain pape. Eh bien là, il décide de poursuivre le magazine L'Expresso pour 10 millions d'euros en disant ben, c'est à cause de votre article que j'ai perdu mon emploi.
Ah, oui.
Je peux utiliser cette expression-là de cardinal. Et là, il va loin. Et ça, j'ai jamais vu ça. Il dit vous m'empêchez de peut-être devenir pape. Parce qu'on sait que pour devenir pape, il faut que tu sois un cardinal. Ils sont juste 120. Il dit, là, je peux pas le devenir. Puis il dit, vous m'empêchez d'influencer le prochain conclave. Mmh. Parce que souvent, on a des rencontres, puis on discute de ce qu'on veut. Il dit, vous m'empêchez tout ça. Il dit, en plus, imagine-toi, Benoît, il fait maintenant de l'insomnie et il y a une perte d'appétit.
Oh, pauvre minute.
Et oui, et il s'en va aussi. Il dit que je m'en vais en psychothérapie.
Okay.
Et c'est ça. Mais moi, j'ai toujours pensé, parce qu'il y a beaucoup de cardinaux qui disent que c'est l'Esprit-Saint qui dicte le vote. Il y a beaucoup de cardinaux qui ont dit ça. Fait que là, je me demande, Becciu, si l'Esprit-Saint était avec lui, il serait peut-être encore cardinal. Mais je le suppose, là, c'est pas correct, mais c'est un raisonnement.
OK. La dernière, c'est sur le Vatican, ce like de l'Instagram, sur Instagram?
Oui, ça, c'était quelque chose. Eh bien, le Vatican, on sait qu'ils ont mis, parce que le pape a un Instagram où il y a 7 millions de personnes qui sont abonnées, il aurait mis un like sur une photographie d'une jeune fille assez dénudée au Brésil. C'est une mannequin, elle s'appelle Natalia Gariboto. Et si vous voulez aller voir sur Instagram, c'est N-A-T-A-A-G-A-T-A-A.
Merci.
Vous aimez la lettre A.
Ouais.
Et ce qui m'a attiré mon attention, Benoît, c'est quand j'ai vu le livre Pelican Brief, tu sais, l'affaire Pelican de John Grisham.
Oui.
Ben, c'est ça que la jeune fille, ben, est très dénudée, mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est vraiment le livre qui était dans le casier de la jeune fille. Et ça, c'était tout un film avec, je sais pas si tu te souviens, avec Denzel Washington.
Oui.
Il y avait deux juges de la Cour suprême qui avaient été tués, les États-Unis. Et il y avait Roberts, là, Julia Roberts, là-dedans. Eh bien, moi, j'ai tout de suite décliqué. J'ai dit, d'après moi, la photo, c'est ça qui était pas. Si la personne au Vatican a liké, d'après moi, c'est le livre. C'est le livre. Mais ça, on le saura pas trop. Mais il y a une enquête au Vatican pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Qui a fait ça? Est-ce que c'est chez Instagram? Est-ce que ça vient du Vatican? Mais souviens-toi, Benoît, en 2013, les films porno avec Léa Lexus et Chrissy Lynn qui étaient téléchargés au Vatican, c'est peut-être les mêmes. On sait pas. Enquête, Benoît. Enquête.
Et rapidement, là, Alain, là, statistiques sur le nombre de prêtres, c'est important, c'est intéressant.
Ben, surtout en Europe. Ouais. On a 23 000 prêtres qui sont décédés. Il y a eu 15 000 ordinations. Et il y a 6 000 prêtres qui ont quitté le sacerdoce dans les 5 dernières années. Donc, en Europe, les prêtres, ça a descendu de 7 % mais au niveau mondial, ça se maintient parce que plus de prêtres en Afrique, plus de prêtres en Asie. On se maintient autour de 410 000 prêtres, mais c'est en Europe où ça fait mal, 7 % de moins de prêtres dans les 5 dernières années.
Très bien. Alain Pronkin, merci pour ces nouvelles religieuses. On se reparle la semaine prochaine.
Et bonne journée, Benoît.
Salut.
Dutrisac, un animateur pas comme les